J'ai le droit d'enlever mon masque ou...
Ça va, il y a de la distance. Bonjour à chacun et chacune, à ceux qui nous regardent de l'autre côté de l'écran. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Alors comme vous l'avez compris aujourd'hui, on a envie de se focaliser sur la prière et aussi la dimension de la continuité dans la prière, la persévérance. Nathalie a déjà dit beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont se recouper sur ce que je vais dire ce matin, mais ça me semble important aussi de pouvoir rappeler un certain nombre de choses et puis aussi de pouvoir aborder, parce que souvent quand on lit les textes sur la prière, souvent on aborde plutôt ça via Matthieu et notamment sur le Notre Père. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de reprendre le texte de Luc qui est un peu différent et qui a des originalités. Prier, c'est converser avec Dieu, c'est dialoguer avec lui. Alors une conversation, vous le savez, hein, quand il y a une conversation, il y a un aller-retour. Ça veut dire qu'à la fois, il y a une personne qui parle, mais il y a aussi l'autre qui parle. Il y a cet aller-retour, en fait, au final, au travers de la prière, entre ce que nous avons à dire à Dieu, nous l'avons déjà fait ce matin, et ce que Dieu a à nous dire. Et finalement, je me faisais la réflexion en méditant sur ça, je me dis, mais souvent, en fait... Quand on dit « on va prier », qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on parle. On s'attend à ce que quelqu'un prenne la parole. Et je me dis, pourquoi ne pas considérer plus souvent vraiment le temps de silence comme un temps vraiment de prière, comme faisant pleinement partie de ce temps de prière et d'échange et de dialogue avec Dieu. Alors, comment renouveler cette perspective de la prière comme un dialogue et pas simplement un monologue avec Dieu ? Il y a une chose qui est fondamentale, qui est claire, Dieu veut dialoguer avec nous. Il aspire à communiquer avec nous. C'est même dans sa nature profonde, en fait. Dieu est amour, et l'amour est par essence relationnel. Et parce qu'il est amour, en fait, Dieu communique constamment. Il parle tout le temps. Et finalement, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on reconnaît sa voix ? Comment est-ce que je suis sûr que c'est Dieu qui me parle quand j'entends cette voix à l'intérieur de moi-même ? Comment je fais la différence justement avec cette fameuse voix intérieure de moi-même qui parfois est simplement ce que j'ai envie d'entendre en fait. Voilà. Une actrice américaine disait que... Enfin non, elle est canadienne, pardon. Elle disait que nous parlons à Dieu, et quand nous parlons à Dieu, pardon, on appelle ça la prière. Et quand c'est Dieu qui nous parle, on appelle ça la schizophrénie. Parce que souvent, quand les gens ont dit « Écoutez-moi, Dieu m'a parlé », parfois, ça a mené à des choses un peu bizarres. Et parfois, même pire que bizarres. Parfois, ça a mené à des choses horribles. Les gens qui disent « Écoutez-moi, Dieu m'a parlé, et donc du coup, c'est moi qui ai la juste parole », parfois, c'est pas forcément toujours une très bonne chose. Mais alors, comment réconcilier les deux ? Comment savoir exactement quand Dieu nous parle ? Alors, l'idée clé de la prédication de ce matin, alors du coup, je ne sais pas si ça va marcher, mais on va faire un test. Ah là, magnifique. C'est la chose suivante. L'idée clé, c'est la prière, c'est pas simplement parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. Et je vous invite maintenant à approfondir ce texte de Luc 11 que Christine vient de nous lire. Merci Christine. Si vous avez des Bibles, si vous avez des smartphones, ça peut être l'occasion de les sortir parce que j'aurais aussi aimé qu'on puisse éventuellement à certains moments pouvoir comparer certaines traductions. J'en ai choisi une qui est la seconde 21. Et si vous avez un téléphone ou une Bible sur vous avec différentes versions, allez-y, sortez-les. Ce sera l'occasion de pouvoir échanger sur certaines traductions. Luc 11, verset 1. Alors je lis dans ma version. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. En fait, je trouve que c'est vraiment intéressant comme introduction. C'est les disciples voient Jésus en train de prier. Et ils se rendent compte que la prière a un rôle important, voire même fondamental dans la vie de Jésus. il voit aussi que ça amène à des choses incroyables, à des bonnes choses. Et du coup, ils se disent, mais en fait, maître, apprends-nous à prier, en fait. On voit que ça a du fruit chez toi, on voit que c'est quelque chose qui te porte. Nous aussi, on a envie que ça puisse nous encourager, nous porter et tout ça. Et je trouve que c'est un premier pas qui est vraiment intéressant et je pense aussi fondamental dans le fait d'aborder la prière, c'est de se dire, on le fait non pas comme un devoir, comme une obligation, mais avant tout comme un désir que Jésus nous enseigne, en fait. Et je vois ici les disciples qui l'abordent non pas comme une sorte de une routine où absolument il faut que je le fasse, une obligation et un devoir, mais plutôt comme j'ai une motivation profonde parce que je vois qu'en toi ça change quelque chose. Et j'espère que ça puisse aussi nous encourager, nous, qu'on puisse pas simplement le transformer en quelque chose, un devoir, mais quelque chose qui soit vraiment issu de cette motivation de dire « Mais Seigneur, apprends-moi à prier ». Jean avait des disciples et il leur avait appris à prier. Et du coup, les disciples de Jésus se sont dit il va nous apprendre à prier. En fait, à l'époque, ça se faisait comme ça. Il y avait cette fameuse relation professeur-élève. Alors, on va retourner un peu sur les bancs de l'école. Professeur-élève. Mais la différence, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre dans la tête. Il s'agit plutôt, en fait, l'image du professeur-élève n'est pas très très bonne, elle est plutôt l'image de l'apprentissage, c'est-à-dire d'un maître et de son apprenti. Aujourd'hui, je pense que s'il devait y avoir un bac prière, ce serait plutôt un bac pro qu'un bac général, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce que là, souvent, on a résumé la foi comme quelque chose de cérébral. Il faut que ça se passe là-dedans, il faut que je réfléchisse des choses bien compliquées et tout ça. Et du coup, on les a transformées en dogmes, en croyances. Alors qu'en réalité, en fait, la foi que nous manifeste Jésus, ce n'est pas uniquement une liste de cases, de dogmes et de croyances à cocher, et qu'on a appris sur les bancs du catéchisme ou de l'Église. Mais au contraire, c'est une foi de la pratique, une foi du quotidien. On est plus dans l'application que dans l'intellectuel. On est plus dans le concret que dans le théorique, dans la mise en pratique. Et je pense que c'est pour ça que le terme de « apprenti », il est plus adapté que le terme d'élève. Et d'ailleurs, la Bible utilise le terme de disciple. En fait, un apprenti, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend en faisant. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend en faisant. Et du coup, on est beaucoup plus dans cette initiative personnelle. Autrement dit, nous sommes à la manœuvre. Un peu comme ce jeune-là qui est en train de souder, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais c'est nous qui sommes à l'action, et c'est Dieu qui nous accompagne dans nos mouvements de foi, dans nos mouvements de prière. On n'est pas juste passif à attendre que Dieu nous dise quoi faire, comment faire et tout ça, mais on peut pleinement s'engager dans ce dialogue et dans ce mouvement qu'est la prière. Dans l'Antiquité, quand on devenait disciple d'un maître de sagesse, c'était son rôle de nous initier. Il faisait une initiation. C'est-à-dire qu'il nous transmettait sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses, et du coup, il nous transmettait sa manière de prier, tout simplement. Et là aussi, je trouve qu'il y a un défi pour nous, parce que finalement, il y a certaines choses dans notre société, dans nos sociétés, qui sont tellement individualisées et privatisées qu'on ne sait pas comment les faire. Et par exemple, je pense en tout cas que la prière individuelle, c'est extrêmement compliqué. Il y a des choses qu'on sait faire parce qu'on les a vues faire. Parce que quand on se réunit ensemble, par exemple, quand on lit un texte biblique, on le prend ensemble, on lit, et on sait à peu près comment ça fonctionne. Mais prier individuellement, est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Honnêtement, alors on sait certaines prières communautaires, mais la prière individuelle, on a beaucoup de mal en fait à savoir, mais comment est-ce qu'on apprend à prier? Comment est-ce qu'on fait pour savoir, bon ok, il faut que je fasse ci, ça et ça, ainsi, dans sa prière personnelle? Et du coup, il y a quelque chose de très, parfois peut-être un peu désarçonnant en fait. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être que ce serait aussi l'occasion de plus partager, de plus échanger aussi sur, et toi, comment tu fais par rapport à ça? La réponse de Jésus, au verset 2, quand vous priez, là aussi, c'est intéressant parce qu'il ne dit pas, bon, écoutez, si jamais un jour ça vous arrive de prier, vous pouvez faire comme ça. Mais il leur dit, mais je vois votre motivation et je sais que quand vous allez prier, à ce moment-là, je vous conseille ça. Et il leur donne une version du Notre Père. Je ne vais pas la relire. Matthieu a une version un peu plus longue dans le texte du Sermon sur la montagne que Nathalie nous a en partie lu. On pourrait faire aussi toute une série de prédications, mais le point qui m'intéresse dans cette idée-là, c'est l'idée suivante. Oups. Jésus nous a laissé un modèle à suivre, pas un mantra à réciter. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est qu'un mantra. J'ai découvert ça en faisant en préparant cette prédication. Un mantra, c'est une phrase ou alors une syllabe sacrée qui a un pouvoir spirituel en elle-même. C'est une sorte d'incantation magique. Et j'ai l'impression que parfois, le risque, c'est qu'on considère le Notre Père un peu comme un mantra. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, quand on le dit, il faut le dire dans le bon ordre, de la bonne manière, pour qu'il y ait vraiment le bon effet, entre guillemets. Un peu comme, ouais, comme une incantation. Mais très clairement, en fait, et c'est là aussi ce qui est intéressant au travers de la comparaison des évangiles, c'est que du coup, c'est pas du tout l'objectif de Jésus là. Et comment est-ce qu'on le sait ? Bah, tout simplement parce que Matthieu et Luc n'ont pas la même version. Donc ça nous montre bien que ce qui est important, c'est pas l'ordre des mots précis, avec la phrase précise, à tel endroit précis, sinon toutes les versions auraient été les mêmes. Au contraire, ce que Jésus nous donne ici, c'est un modèle. Ça veut dire un exemple qui nous permet de former les choses, mais sans les contraindre en fait. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est important quand je prie. Jésus nous donne un modèle. Et après, il leur raconte une histoire. Et cette histoire, on pourrait dire que c'est comme s'il leur donnait un cadre. C'est une histoire assez incroyable. On va la relire ensemble. Je pense que vous l'avez un peu en tête. Après leur avoir donné un modèle, il leur donne un cadre pour savoir comment ça fonctionne la prière. Qu'est-ce qui est en jeu quand on prie ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Donc là aussi, du coup, j'ai pas mis le verset, mais je vais le relire. Verset 5. Il leur dit : supposons que l'un de vous est un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Voilà le scénario, on le refait basiquement, c'est le milieu de la nuit, il y a un ami qui était en voyage et il arrive chez vous, il n'a pas mangé, il est affamé, vous ouvrez tous les placards et il n'y a plus rien dans les placards. Et là, vous vous dites, la seule solution, c'est que j'aille chez mon voisin, qui est aussi votre ami, en l'occurrence, c'est génial ça, et vous frappez à sa porte à minuit pour le réveiller. Et Jésus continue, verset 7, supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde. Ne m'ennuie pas, la porte est... on va le faire... Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. C'est à peu près ça que ça doit donner, à peu près. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. En gros, c'est à peu près ça. Je vous le dis, même s'il se lève pour les lui donner parce que c'est son ami, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de... Et là, ça m'intéresserait d'avoir, s'il y a des gens qui ont des traductions, il se lèvera à cause de quoi ? À cause de... Francky, t'as... insistance ? Ouais, il y en a qui ont insistance. Est-ce qu'il y en a des personnes qui ont d'autres choses ? À cause d'importunité ? Importunité aussi, ouais. Il y a d'autres versions encore ? Pour ne pas moquer à l'honneur. Demander sans vous gêner, sans gêne, c'est ça ? Insister sans se gêner. Ça, je crois que c'est... je crois que je l'ai noté. Français courant, c'est ça. Hein. Vous avez vu toutes les traductions ? Alors, il y a cette idée de sans honte. Demander sans honte, sans gêne. La traduction parole de vie, c'est parce que vous continuez à demander sans gêne. Ça, c'est intéressant. Votre voisin finira par vous donner du pain, mais il ne le fera pas parce qu'il est votre ami. Il le fera parce que vous l'importunez suffisamment, parce que vous le saoulez. C'est un peu ça, en fait. Quand on lit le truc, c'est un peu ça, en fait. Alors, après... C'est là où c'est important, en fait. C'est quand on lit cette histoire un peu en surface, on se dit, la morale de l'histoire, c'est Dieu ne nous donne pas les choses parce qu'il nous aime, mais si on le harcèle suffisamment par la prière, finalement, il va nous les donner. Est-ce que c'est ça ? Je ne crois pas que ce soit ça, la persévérance dans la prière. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond ici. On va essayer de voir un peu de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que cet homme, il est si plein d'insistance et d'audace? Est-ce que c'est justement parce qu'il a un besoin et que du coup il va importuner son voisin pour répondre à son besoin? Si on transpose les choses pour nous, pourquoi est-ce qu'on est motivé pour réveiller notre ami si on a juste un peu faim? On est allongé dans le lit, on sait que les armoires sont vides, mais même si on a un peu faim, franchement, moi je n'irais pas déranger les Lemay chez eux à la maison en disant pourtant ils ne sont pas très loin, hein, ils habitent pas très loin. Alors pourquoi est-ce que là, on est motivé à le faire? Parce que justement, ce n'est pas pour nous. Parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué ici. Parce que vous plaidez pour la faim de quelqu'un d'autre. Pas la vôtre. Et c'est ce décentrement de soi-même, en fait, qui nous donne cette audace, cette insistance, cette envie, en fait, presque sans gêne, de déranger et de continuer à frapper, à frapper, à frapper, à frapper. Parce que justement, je pense que si c'était pour nous, si c'était pour nos propres besoins, le fait de réveiller un ami, s'il est vraiment votre ami, il vous claque la porte au nez et il vous dit « Mais rentre chez toi, là t'es en train d'abuser, laisse-nous tranquille. » Mais le fait de demander pour autrui, ça change la donne. Et Jésus, il va comme infuser ce principe-là. La prière, c'est une occasion de se décentrer de soi-même. C'est une occasion de se décentrer de soi-même pour pouvoir regarder autour de nous, pour pouvoir prier avec ferveur et persistance au nom d'autrui. Il nous invite à avoir ce regard qui est même plus que tourné, en fait, qui est centré sur les autres et sur leurs besoins quand on prie. Et c'est cela qui réjouit Dieu dans les prières. Et le verset 9 dit « Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Quand on lit ce passage hors contexte, quand on oublie cette partie qui est juste avant, en fait, on se dit « Tout ce que je veux, tout ce que je désire, je l'ai. » Mais comme on l'a vu ici, le contexte, c'est pas ça. Le contexte, c'est « Apprends à te décentrer de toi-même, de tes envies, de tes désirs et à tourner les regards vers les autres. » Tourner les regards vers les besoins de tes prochains et de tes lointains aussi. Et c'est intéressant parce que finalement Jésus, il n'a pas dit autre chose dans tout son enseignement en fait. Si on devait résumer, d'ailleurs c'est lui qui le fait, en une phrase son enseignement, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire « apprends à voir les besoins fondamentaux de l'autre en premier avant les tiens ». Et c'est marrant parce que là aussi, dans l'Occident, enfin, en tout cas, dans notre société occidentale, souvent, on retourne ça, en fait, en disant « aime ton prochain comme toi-même ». Bon, ok, le prérequis, c'est qu'il faut d'abord que j'apprenne à m'aimer moi-même. Et du coup, en fait, on va retourner vers soi une requête qui est censée être tournée vers les autres. C'est un peu paradoxal, en fait. Alors que le principe de Jésus, c'est de dire, de base, on sait s'aimer soi-même, dans le sens, on sait subvenir à ses besoins fondamentaux. Quand on a faim, on va chercher à manger. Quand on a soif, on va boire. Quand on se sent en sécurité, quand on a peur, on va se mettre en sécurité. Tous ces besoins fondamentaux, on est appelé à aller se décentrer et les voir chez autrui. Et ce contexte de demander l'on vous donnera, il va encore plus loin et c'est un peu une sorte de conclusion en apothéose qui donne une dimension encore plus grande à la prière. Je lis la suite et la fin de ce passage, verset 11. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers ce que vous avez toujours voulu, ce que vous désirez au plus profond de vous-même? Non, donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le point essentiel de tout ça, c'est qu'en fin de compte, le but de chaque prière, c'est d'aspirer à plus de Dieu lui-même dans nos vies. Et là, si vous demandez, si vous frappez, Dieu vous garantit et il vous dit « Absolument, je te le garantis, c'est mon désir de te donner plus de moi dans ta vie. » On peut prier pour des choses spécifiques. On peut prier pour qu'une relation fonctionne. On peut prier pour une étape, une transition dans sa vie. Ou alors on peut prier pour des périodes de lutte, de difficultés, quand on passe des épreuves. On peut prier pour des miracles, hein, pour différentes choses précisément. Mais finalement, derrière la prière de tout disciple de Christ, il y a ce désir de plus de Christ, de plus de l'Esprit de Jésus. Est-ce que c'est ça notre motivation première quand on prie? Parce que finalement, si on prie pour une guérison, pour un miracle, pour une relation restaurée, voilà, quoi que ce soit, et que la réponse de Dieu est « Je pourrais dire oui à cette prière spécifique, mais en fait, si je dis non, ça va ouvrir une porte pour que tu expérimentes davantage de moi dans ta vie, pour que tu découvres de nouvelles facettes de moi dans ta vie. » Est-ce que tu considérerais ça comme une bonne réponse à ta prière? Honnêtement. Parce que je pense que sinon, on doit reconsidérer et repenser ce que c'est la prière pour nous. Parce que je crois que la réponse de Dieu, c'est toujours « Je dirais oui ou non en fonction de ce qui, en fin de compte, te permettra d'expérimenter plus de moi dans ta vie. Au travers de mon esprit en toi. » C'est un enseignement d'une profondeur incroyable, je trouve. Que l'on puisse garder cela dans nos cœurs, de se rappeler ces éléments essentiels. Ce modèle que Jésus nous a laissé au travers du Notre Père. Et ce cadre aussi qu'il nous offre. Ce cadre au travers du décentrement de soi-même et aussi du fait que savoir que toute prière, c'est mettre Jésus au centre et expérimenter plus de son esprit en nous. Je vous propose de conclure par quelques conseils pratiques pour vraiment, on l'a dit avec Nathalie, on avait vraiment à cœur que ce soit aussi quelque chose, qu'on ait des outils en fait pour pouvoir le concrétiser dans nos vies. Et on aura l'occasion d'y revenir dans la suite du culte. Quelques conseils pratiques, parce que je trouve que pour moi, ça a toujours été, et c'est toujours, franchement c'est toujours un défi. Et je parle vraiment avec beaucoup d'humilité de ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un sujet qui est aussi un défi pour moi. Alors, quelques conseils pratiques concernant le lieu. Le conseil, je pense en tout cas, qu'on peut donner, c'est trouver un endroit qui aide à diriger nos pensées vers Dieu. Ça va être très différent pour chacun. Pour certaines personnes, on va devoir se mettre à l'intérieur, dans une pièce spécifique. Pour d'autres, on va être à l'extérieur. On a besoin d'aller marcher, dans la forêt. Ça peut même être variable en fonction des certaines périodes de nos vies. Pour d'autres, on va besoin d'être vraiment au calme, dans une certaine pièce, dans un environnement particulier. Pardon. Peut-être allumer une bougie aussi, peut-être pour voir, enfin, tout ce qui va nous permettre en fait de nous concentrer sur ce temps de prière et de ne pas égarer nos pensées. Tout ce qui permet de nous focaliser, de focaliser notre attention. Actuellement, on en parle beaucoup, et notamment au niveau médical, en fait, aussi, cette idée de focaliser son esprit, parce qu'on vit dans un environnement dont la force n'est pas la concentration et la focalisation, si je peux dire les choses simplement, quoi. C'est juste pas la force de notre génération. Voilà. Alors, du coup, je pense que l'idée, c'est aussi de mettre toutes les chances de notre côté, en fait, pour essayer de développer ou de redévelopper cette habitude de se concentrer, de se focaliser. Et je parlais de l'endroit aussi, mais ça peut aussi être en fonction de l'environnement qu'on a. Je dis ça aussi pour moi, par exemple, ben, de ne pas forcément le faire avec le téléphone à côté, par exemple, ou ce genre de choses-là. Voilà, c'est des choses où on se dit, comment est-ce que je peux me mettre dans une attitude où je suis vraiment à 100% dans ce que je fais. Il y a un autre élément qui me paraît important aussi, c'est la posture. Et souvent au début, alors on le fait avec Anouk, on s'en est rendu compte ces derniers temps aussi, c'est que du coup on s'est dit mais on va quand même pas lui donner des dômes comme fermer les yeux, rassembler les mains et tout ça. Et en fait au final, ça aide vachement à se concentrer. La belle chose, c'est que Dieu nous a donné, plutôt, il a mis notre esprit dans un corps. Voilà. Et on peut utiliser ce corps pour nous aider dans notre esprit. Et ce corps-là, ça peut être une bonne occasion pour m'aider à me concentrer, trouver une posture. Ce sera peut-être pour certaines personnes à genoux, d'autres assis, d'autres vont s'asseoir ou se mettre debout, d'autres vont lever les mains en l'air, d'autres les paumes comme ça, d'autres vont pouvoir joindre les mains comme ça, peut-être d'autres vont aussi s'allonger par terre, s'allonger sur le sol. Tout ça, c'est des moyens pour permettre aussi à notre corps d'être pleinement dans ce temps et dans cette intention que nous avons à ce moment-là. Et je crois vraiment qu'à ce niveau-là, le corps est aussi un cadeau, parce qu'il fait pleinement partie de nous, alors qu'on puisse aussi l'utiliser comme un moyen de nous tourner vers Dieu. Et dans ce sens-là, et dans la même idée, je finis par cette troisième idée, qui, j'avoue, ces dernières années m'a beaucoup aidé, et je trouve que ça, c'est extrêmement utile, en fait, prier à haute voix. Prier à haute voix, même quand vous êtes seul. Ou alors même s'il y a quelqu'un à côté, en fait, de simplement murmurer comme ça, et de « Merci Seigneur ». Et en fait, le fait de former les mots dans la bouche et de les faire sortir, je trouve que ça aide à une sorte de concentration mentale, en fait. Parce que ça évite aussi, parce qu'au final, moi, je me croyais plus fort que tout le monde. Je me dis, mais de toute façon, j'arrive à prier dans ma tête et tout ça. Mais en fait, en réalité, Ben voilà, après, mes pensées, elles divaguent et à la fin, ça finit par faire ma liste de courses. Voilà, en gros, c'est à peu près ça le truc. Mais quand la bouche forme les mots, ça nous aide à nous concentrer. Et c'est là aussi que l'Écriture peut nous encourager à prier, que ce soit simplement en chuchotant ou en parlant, voilà. Et l'autre chose aussi, par rapport à cette idée d'entendre sa voix, en fait, c'est que ça va créer une boucle aussi où, du coup, on peut se rappeler aussi que, ça y est, je suis engagé dans un processus, engagé dans la prière, pour que justement mon esprit ne s'égare pas, voilà. Donc c'est aussi une sorte de physicalité qu'on peut utiliser pour s'aider à se concentrer personnellement et tout ça. Après, on aurait pu évoquer aussi le fait de prier à plusieurs, mais là, en l'occurrence, on parlait surtout de la prière individuelle, de développer cette intimité, cette relation avec Dieu. On aurait aussi pu parler de la fréquence. Là aussi, ça, je l'ai pas noté, mais ça m'a donné un petit coup, en fait, parce que je me suis dit, de toute façon, au final, il n'y a pas de loi dans la Bible. Je peux prier un peu quand je veux et tout ça. Donc, le fait de dire « lis ta Bible, prie chaque jour », c'est un peu dogmatique, c'est un peu légaliste. Et c'est vrai, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais quand j'ai relu le texte, en fait, il est dit « Donne-nous notre pain de ce jour, quotidien. » Et je me suis dit mais alors quand c'est qu'on prie pour le pain de demain ? Eh bien, on prie demain. Et chaque jour, sa prière. Et par exemple, quand on a un examen, l'examen est le vendredi, on prie aujourd'hui pour que Dieu nous donne la concentration de bien travailler, pour qu'aujourd'hui, on puisse être pleinement dans ce qu'on fait. Et le jour où on priera pour l'examen, ben ce sera vendredi, et pas forcément en amont. Et là aussi, je trouve que parfois, le fait d'entretenir cette régularité dans la prière, ça nous permet aussi de se rendre compte qu'en fait, on avance pas à pas, petit à petit, et qu'on n'est pas, un peu comme Jésus le dit, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain s'occupera de lui-même. Voilà, c'est des petites choses, des petits conseils, voilà, sur un modèle que Jésus nous laisse, un cadre aussi, éventuellement quelques conseils aussi qu'on peut utiliser. Et en guise de prière, je vous propose de, si vous êtes d'accord, que nous formulions une prière tous ensemble. Je vais l'afficher. Je la lis et puis après on va la lire ensemble. Je la lis une première fois. Père, j'ai hâte de dialoguer avec toi cette semaine. Si vous êtes d'accord, c'est vraiment l'encouragement que j'aimerais vous, ou le défi que j'aimerais vous lancer aujourd'hui. C'est de dire, notre Père, nous avons hâte de pouvoir être, de vivre cette relation avec toi cette semaine. Et en disant ça aussi, on dit aussi notre volonté, notre intention, notre responsabilité aussi à vouloir mettre du temps à part par rapport à ça. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier ou enseigne-nous à prier. Est-ce qu'on pourrait faire nôtre aussi cette demande des disciples ? Et Saint-Esprit, aide-moi à te parler et à t'écouter. À te parler et à t'écouter en tournant le regard vers les autres. En nous rappelant que la prière, communiquer avec Dieu, c'est lui parler, mais c'est aussi l'écouter, prendre des temps pour se mettre à son écoute. Alors si vous êtes d'accord avec cette prière et si vous voulez la faire vôtre, je vous invite à vous lever. On va se lever tous ensemble et on peut prier ensemble cette prière à haute voix. Et nous disons ensemble, Père, j'ai hâte de dialoguer avec toi cette semaine. Seigneur Jésus, aide-moi à prier comme tu as prié. Saint-Esprit, aide-moi à te parler et à t'écouter. Oh mince, pardon.
Désolé.
On refait peut-être à Seigneur Jésus ?
Désolé.
Seigneur Jésus, apprends-moi à prier comme tu as prié. Saint-Esprit, aide-moi à te parler et à t'écouter en tournant le regard vers les autres. Merci pour ton amitié, Seigneur. Amen.
Merci.
Et je vous invite maintenant à prendre un temps de méditation au travers du chant suivant.
J'invite le groupe de louanges à venir.